Tant qu'il y aura des femmes, avec Lydia Ketty, votre rendez-vous du jeudi sur Aligre FM 93.1. Bonsoir, bienvenue à l'émission Tant qu'il y aura les femmes sur Aligre FM 93.1. Je vous reçois comme chaque premier et troisième jeudi du mois. Ce soir, nous recevons M. Grégoire Collard, l'attaché de presse des stars, pour son livre « Souvenirs, si ma mémoire est bonne ». Et je vous assure que sa mémoire est excellente. Parce qu'elle est bonne, votre mémoire, d'après ce que j'ai vu.
Oui, parce que comme tout le monde, il y a un moment, il ne fonçait plus. C'est la robe de la mariée était bleue ouverte.
Alors, Grégoire Collard, votre mère, comme beaucoup de femmes dans ces années-là, on va dire, est tombée enceinte. Elle voulait une fille pour jouer à la poupée.
Oui.
Donc elle a décidé que vous alliez être une fille.
Elle ne veut surtout pas, quand elle a appris que j'étais en train de naître et tout ça, et que l'infirmière a dit « c'est un garçon, je n'en veux pas, débrouillez-vous » et tout ça. Premier acte, ouais. Et ça, voilà. Et donc, oui, parce qu'elle avait perdu une petite fille, donc elle voulait un peu la remplacer. Et du coup, elle me faisait essayer ses vêtements, plus tard, bien sûr. Et... ses chaussures, elle me donnait mon avis, elle m'a appris à tricoter, à coudre. Donc, pour les trucs un peu virils, c'était en
pas
attente.
D'ailleurs, elle vous achetait des jouets de filles, des poupées, des panoplies pour changer les poupées, voilà. Etc. Enfin, ça veut dire qu'aussi, alors, votre père vous offrait des petites voitures. Et votre mère
Oui, les Dinky Toys, c'est très célèbre, les Dinky
oui,
Toys.
Des oui,
je connais des gens, des collectionneurs autour de moi, qui en ont mais 20 000, 30 000,
oui, mais
des petites
des
voitures, en les mettant les unes derrière les autres oui, par oui, terre, oui, tout ça, c'est oui, génial.
Oui, c'est des super jouets. Donc, adolescent, vous voulez être mannequin, parce que vous décidez de vivre votre vie, j'imagine, et de faire un peu comme vous voulez, d'arrêter d'être une fausse fille. Et vous avez donc commencé par faire de la figuration.
Oui. Alors, déjà, j'ai été convoqué une fois dans une société de publicité. Et on m'a dit, c'est bien, oui, on pourrait vous faire travailler, gagner un peu d'argent et tout ça. J'avais 14-15 ans. Et il m'a dit, bon, eh ben, vous avez rendez-vous demain. On fera des photos avec des vêtements ou des chaussures et tout ça. Bon. Mais alors, par contre, hein, il faut être impeccable. Ah bon? Alors, je prends 3 douches la veille, au soir, donc, et le lendemain matin, je suis propre comme un sous-neuf. Et au moment où c'est moi à mon tour, on me fait entrer dans un studio, il y a le photographe, tout ça, on me fait entrer, monter sur un plot, et on me fait essayer un short et des chaussures, très bien, et puis on a pris des photos que des chaussures. Donc j'avais les cheveux, mais
ouais,
vraiment...
Oui, vous êtes propre pour rien, en fait.
Pas de pellicule, rien, impeccable.
Donc ça veut dire que l'expérience de mannequin n'était pas, c'était pas probant, donc vous avez décidé de prendre des cours de théâtre.
Oui, ça. Et alors là, la voix que vous entendez, c'est une voix qui a été travaillée au théâtre.
Oui.
C'est-à-dire que, pour dire des tirades de Corneille ou de Racine ou d'autres textes, il faut avoir une voix très distincte et très
oui,
nette
oui.
Et tout ça.
Reconnaissable un peu.
Reconnaissable aussi. Et le prof m'a dit, bon, il faut qu'on pose votre voix. Ben pourquoi? Pour qu'elle soit toujours la même et tout ça. Alors il m'a fait travailler tout ça. Et donc, j'ai cette voix-là que je ne peux pas changer. Quand j'appelle quelqu'un... Et que je vais lui dire que je ne suis pas Grégoire. Ah, vous connaissez Grégoire? Non, non, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Jean-Pierre. Il me dit, mais on t'a reconnu, Grégoire. Et vous qui faites de la radio, vous savez que la voix est importante.
Tout à fait.
Et que les auditeurs ou les téléspectateurs, parce que j'ai fait aussi de la télé, cette voix.
Ouais. Ouais, on pourrait aller plus loin encore, on peut dire que la voix c'est le son de l'âme aussi quelquefois. Hein. Aussi, quelquefois.
Peut-être.
On peut peut-être réfléchir. Non, on laisse penser.
Oui, ouais, j'y pense
on
quand
va
même.
Y réfléchir.
Oui, oui.
Et puis, à 20 ans, vous décidez de commencer le show business. Ça y est, vous avez envie d'être dans le show business.
Ben, je voulais être dans le métier artistique et tout ça. Et j'avais une idole, c'était Alain Delon.
Ouais.
Bon, très bien. Et parfait. Sauf que je voyais pas très bien comment devenir Alain Delon. Et surtout qu'un jour, j'ai lu un article sur lui dans Cinémonde, un journal spécialisé film, cinéma, acteur, et il disait « Ma vie est un enfer, je ne peux pas sortir de chez moi, il y a des photographes, je ne peux pas me promener, ma vie est un enfer.
Ouais, » j'imagine.
Et je me suis dit « Ah non, 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 je veux pouvoir promener mon chien, je veux pouvoir être tranquille.
Ouais, » La notoriété, tout le monde désire, mais c'est voilà. La pire des choses pour moi. Ouais.
Et par contre... voilà, j'ai fait poser ma voix, elle a été posée, j'ai fait des choses. Puis après, je me suis dit, bon, ce qui peut être bien, c'est que je trouve un métier où je vais mettre des artistes dans la lumière du cinéma ou de la scène et tout ça.
De la télévision.
Et donc, dans la lumière, et moi, je profiterai de l'ombre, de leur lumière, de tous les avantages, les voyages.
Et ça démarre comme ça, en fait.
Et c'est comme ça que ça s'est passé.
Et vous rencontrez donc un photographe pour, qui travaille pour Salut les copains, qui était
Robert Donat, oui. Ouais,
très connu à l'époque, magazine de jeunes, un des premiers magazines pour jeunes, comme on dit.
Absolument.
Et après, ensemble, vous créez Choc Promotion.
Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour, dans les maisons de disques, il n'y avait pas de service pour appeler des DJ dans les cabarets, dans les discothèques et tout ça, pour leur proposer des nouveautés. Ça n'existait pas, ce métier-là. Et je me suis dit, eh ben, c'est ça que je voudrais faire. Donc je suis allé voir une maison de disques, Philippe, j'aurais dit, voilà, comment ça vous voulez faire le tour des plages de l'Atlantique et de la Méditerranée avec votre voiture, avec plein de disques dans votre voiture, et vous allez faire... toutes les discothèques de toutes
les
belles villes de bord de mer.
Albums, ouais.
Je dis, bah oui. Oui, enfin, vous voulez passer les vacances. Bah, dans ma voiture, c'est pas l'idéal non plus. Et il me dit, mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Parce que les gens, ils vont croire que qu'ils vont recevoir des factures. Non, je vais leur demander de remplir des feuilles en disant j'adore cette chanson, j'adore ce titre, j'adore ce chanteur et je vais le passer dans ma discothèque, notamment à Carnac, les chandelles, ça fait 50 ans. Le DJ s'en souvient, il m'écrit de temps en temps par Facebook.
Mais alors en fait, il n'y avait pas beaucoup d'attachés de presse, c'est un métier que vous avez inventé pratiquement dans les années 60-70.
Oui, ça existait pas, en fait. Mais pour, disons, pour les hommes politiques, les gens importants,
c'est ça.
Et pour des disques, pour des chanteurs, non, ça n'existait
pas.
Non,
pour tout ce qui était artistique, chansons et tout, ça n'existait pas. Et alors, le rôle exact d'un attaché de presse dans le monde de la variété, c'est quoi? Quel est votre rôle, en fait?
Ben voilà, donc, des maisons de disques m'appelaient, on va avoir l'occasion d'en parler, différentes maisons de disques en disant, voilà, on a signé un groupe, ils sont... anglais, ils sont américains, ils sont ceci, cela, on aimerait que vous alliez, si ça vous plaît, qu'on vous donne des disques, et vous allez voir les radios et les télévisions, pour que les programmateurs de radio et de télévision invitent les artistes, passent les titres dans les émissions, enfin voilà, et je me suis dit, oui, bah ça, pas de souci,
c'est sympa,
et je l'ai fait, j'ai commencé, et... avec une certaine dame brune.
Et alors, donc vous avez rencontré des animateurs de télévision comme Guy Lux, Drucker,
oui.
Daniel Gilbert, tous ces grands noms, et vous avez fait la promotion. On va parler un petit peu à chaque fois des femmes que vous avez rencontrées, mais vous avez Michel Sardou, Serge Reggiani, Gainsbourg, Barbara, dont on va parler évidemment. Donc vous avez collaboré avec beaucoup d'artistes féminins aussi. Donc est-ce que le monde des variétés pour les femmes à l'époque était difficile? Est-ce que c'était difficile pour une femme de
faire ça, c'est
de
une bonne question. Alors je dois réfléchir un peu tout en parlant, parce que non, je pense qu'il n'y avait pas cette folie des qu'on a connue depuis et qui perdure, où les femmes sont... C'est plus compliqué pour les femmes. Soit on les met trop en avant, et puis il y a leur voix, mais il y a aussi leur corps, les yeux, les seins, les fesses, tout ça, ouais, ça compte. Ouais. L'habillement.
Leur personnalité aussi.
Leur personnalité, bien sûr. Alors que les hommes, ils peuvent chanter s'ils ont une épaule de travers, on s'en fout un peu.
Oui, complètement. Alors, donc on peut dire que c'était assez violent comme monde, le monde du show business. Moi, j'ai envie de dire, qui se souvient de Georgette Lemaire? Elle a participé à un télécrochet qui était l'ancêtre
Georgette des... Georgette Lemaire.
Pardon?
Georgette Lemaire.
Et j'ai dit quoi, là? Georgette Lemaire, oui.
Oui, j'ai compris Ginette.
Ah bah c'est possible, pardonnez-moi, je l'ai démortisé. Et Télécrochet qui était l'ancêtre des castings aujourd'hui. Et Georgette Lemaire était en compétition avec Mireille Mathieu.
Ah ouais.
Et c'est Mireille Mathieu qui a une carrière.
Elle s'était vraiment égalité au départ. Hein.
Au départ,
parce
oui.
Parce que Georgette Lemaire avait une très belle voix. Et ne parlons pas de celle de Mireille Mathieu, puisqu'elle va passer encore là bientôt...
Mais c'est vrai qu'entre les deux, le choix a été fait plus par rapport à la personnalité qu'à la voix, parce qu'elles avaient pratiquement la même voix, en fait.
Oui. Ben, ce qui a perdu un peu Georgette Lemaire, c'est qu'elle avait mauvais caractère.
Oui, c'est ça. Donc, c'est la personnalité.
Alors que Mireille Mathieu, mais elle a toujours été charmante, souriante, et quand elle a appris que, plus tard, que je m'occupais aussi de France Gall... Oh, c'est tout juste, elle courait pas vers moi sur un plateau de télévision en disant « Comment elle va, ma chère France ?» et tout ça. Elle est jamais... Et on l'entendait toujours dans sa loge, dans les endroits où on faisait les télés, dans sa loge, répéter
travailler
ses
sa voix.
Chansons,
ouais,
sans arrêt.
Sa voix. Alors, vous citez l'étrangeté de Françoise Hardy, sa personnalité particulière. Oui. On va pas dire du mal. Hein. Elle a eu une longue carrière dans la chanson. Mais elle a aussi l'intérêt pour la graphologie et qu'elle conjugue avec l'astrologie.
Oui, très douée, oui, oui. Et elle était folle de ça. Et puis aussi, elle m'a enseigné, enfin, elle m'a montré, elle m'a parlé des courants de pensée qu'on doit avoir pour réussir quelque chose. Soit une rencontre. Soit une séparation.
D'énergie, en fait, quelque part.
L'énergie, les paroles, ce qu'il faut dire, pas dire, et tout ça. Et elle était étonnante. Ouais. Elle savait, bien sûr, lire l'écriture, elle savait... passionnée. Un peu saoulante, parce qu'elle parlait beaucoup de ça.
Bon, on va pas...
Mais
évidemment.
On s'entendait très bien. Mais elle était dans son monde.
Et donc, entre-temps, d'ailleurs, elle était à la radio. Elle a présenté une émission Entre les lignes, Entre les signes, de 1982 à fin 84, c'est ça, sur Radio Monte Carlo.
Oui.
Donc, elle a quand même... Elle a fait des livres aussi sur le sujet. Elle a sorti deux ouvrages, Graphologie planétaire et Typologie de l'écriture et de la personnalité. Oui. C'était un gros sujet, ça.
Et elle m'a enseigné un peu la pensée positive. C'est-à-dire qu'on a envie... de faire une démarche d'amour près d'un garçon, d'une fille et tout ça. Mais on n'ose pas et tout ça. Tout le monde m'écoute pour savoir comment on fait d'ailleurs. Et donc, elle m'a dit, voilà, il faut vraiment penser aux phrases qu'il faut dire à la personne et ceci et cela. Et après, elle m'a appelé en disant,
ça a fonctionné.
Oui, on a passé une bonne nuit. Ah, je suis contente.
Et en fait, vous l'avez interviewée pour divers magazines, des radios.
Oui.
Et vous avez fait la promotion de ses albums aussi, de son album.
Absolument, notamment ne tirez pas sur l'ambulance, qui n'est pas la plus connue. Mais qui est...
Ah, j'adore ce titre.
Oui, qui a très bien marché.
C'est presque rock'n'roll en plus, c'était drôle
ça,
pour elle.
Pas bien. Tirez pas sur l'ambulance. Oui.
Et ben, vous savez quoi? On va l'entendre tout de suite.
Ah, quelle bonne idée.
On va attendre Françoise Hardy nous chanter « Ne te pas tirer sur l'ambulance », qui est une expression d'ailleurs.
Ne tirez pas sur l'ambulance.
Oui. <C'est>... Ne tirez pas, oui. Mais c'est une expression qui veut dire... Faut pas, faut arrêter.
Ah bah oui, il faut pas achever quelqu'un qui est déjà endommagé.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Hey.
voilà, c'était François Zardy qui nous disait de ne tirer pas sur l'ambulance. Vous êtes toujours sur Allégre FM 93.1, l'émission En tant qu'ailleurs des femmes. Nous recevons Grégoire Collard, qui est une sommité dans le show business.
Une immensité.
Oui.
On ne peut plus.
Pour son livre Souvenir, si ma mémoire est bonne, et je vous confirme que sa mémoire est très bonne, vous avez rencontré une grande et sublime femme afro-descendante, un personnage très spectaculaire, une Jamaïcaine. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Jamaïcaine? Comme elle, ça, non.
Alors, elle s'appelle Grace.
Jones.
Jones.
Alors là, ça s'est mal passé.
Ah, ça s'est mal passé. Il faut
mais c'est bien quand on écrit un livre avec des choses qu'on a vécues. Alors, forcément, normalement, on se met en avant. J'ai réussi ça, j'ai fait ceci, j'ai eu de la chance, les gens m'ont admiré, tout ça. Ben là, ça s'est mal passé.
Ouais, ou ça s'est pas passé, du coup.
Ben, il se trouve qu'il y a une maison de disques qui m'appelle en disant on va sortir un album d'une chanteuse américaine, on aimerait que vous veniez, qu'on enregistre une rencontre, et que, éventuellement, si le disque vous plaît, que vous en occupiez pour les radios et les télévisions, pour avoir les programmateurs donc, et qui passent ce titre-là. Et... D'accord, donc rendez-vous le lendemain dans un hôtel de luxe, bien sûr, dans Paris. Et donc, j'arrive le premier, je suis bien accueilli. Et puis, voici la Grace Jones. Et qui n'avait pas de graisse, justement.
Elle n'était pas gracieuse.
En tout cas, et donc on se parle, tout va bien, elle est charmante, extrêmement... pas mondaine, mais on sent qu'elle existe déjà, ouais, que c'est pas une artiste qui démarre depuis 5 minutes.
C'est une dame incroyable.
Donc, voilà. Et bon, tout se passe bien, le rendez-vous. Ça y est, ça se termine, on va s'appeler, on va machin, bon, tout est rose et tout ça. Le lendemain matin, la personne qui m'avait contacté dans la maison 10 m'appelle en me disant « On est désolé, mais ça va pas faire l'affaire.
Ouais. » Sans donner de raison.
Et je dis, j'essaie d'en savoir plus. Je dis, non, mais c'est comme ça, voilà. C'est une artiste américaine, elle est un peu spéciale, ouais. Bon, mais sans dire du mal d'elle. Ah, donc je raccroche, je suis un peu dépité parce que là, je trouvais qu'elle avait de la classe quand même.
Ouais, et belle.
Puis, du coup,
elle est belle.
J'avais écouté, du coup, durant le rendez-vous, un titre ou deux où j'avais trouvé ça formidable.
Ouais, bien sûr.
Ah, j'étais tellement déçu. Je suis allé me regarder dans un miroir et j'ai fait « Mais pourquoi ?»« Pourquoi elle ne veut pas de moi ?»
Alors, Grace Jones est une chanteuse, autrice, compositrice et actrice.
Ah oui, vraiment.
Elle a été l'égérie du réalisateur Jean-Paul Goude,
oui.
Qui a révolutionné les pubs.
Oui.
Ce monsieur a fait des films pubs extraordinaires. Et Grace Jones a tourné avec Jean-Paul Goude plusieurs films publicitaires extrêmement célèbres.
Très célèbres. Et on n'entend plus parler d'elle, donc on parle un petit peu au passé, bien entendu. Mais elle a fait quand même un boom extraordinaire en France, en Europe et dans le monde.
Absolument. Parce que les excentricités visuelles et vestimentaires de Grace Jones ont fait que les Lady Gaga et Rihanna déclarent qu'elles ont été influencées par le look de cette personne.
Ah oui, oui, oui.
Bon, vous n'avez pas travaillé avec elle, mais vous êtes allé au concert...
je suis quand même au Palace.
Au Palace, ouais, fameux concert où elle est arrivée à 4 heures de retard.
Et donc, elle était spectaculaire sur scène, incroyable, elle dominait. On sentait qu'elle était à l'aise, alors que c'était archi-comble, parce qu'elle était connue déjà dans pas mal de pays.
Ouais.
Donc... Et sa notoriété en France a, du jour au lendemain, été incroyable.
Bien sûr. Bon, pas de regrets donc, parce que vous avez quand même travaillé. Vous étiez fasciné par Adjani.
Ah, ça c'est autre chose. Isabelle Adjani, ça c'est le charme absolu.
C'est le charme absolu. C'est le talent absolu aussi.
Je l'ai rencontrée la première fois sur un plateau de télévision des Carpentiers sur TF1, qui organisait ça chaque samedi soir des grands shows. Et j'étais avec Michel Berger et France Gall, avec qui je travaillais. Et puis, soudain, il y a Isabelle Adjani qui arrive. Je savais qu'ils se voyaient, mais je ne l'avais encore jamais rencontrée. Je savais qui c'était,
bien sûr,
les films, tout ça. Et donc, Michel Berger me présente, voici Grégoire Collard et tout ça. Et elle s'approche de moi et elle m'embrasse sur la joue droite.
Bien.
Je prends du temps exprès. Sur la joue droite, et elle passe sur la joue gauche. Et c'était incroyable la sensation. C'était un voyage de 2 secondes qui a duré dans ma tête 20 minutes. C'est incroyable, ouais, c'est ce charme et tout ça. Et puis après, on s'est vus, on s'est revus. Et elle me téléphonait et elle disait « Bonjour ». Je dis « Qui êtes-vous ?» Parce qu'il n'y avait pas forcément les numéros à ce moment-là.
Bien sûr, ça n'y avait pas, oui.
Elle dit « C'est Isabelle ». Je dis « Quelle Isabelle ? Excusez-moi, quelle Isabelle ?» Il y en a d'autres des Isabelle dans ta vie, Grégoire. Elle avait ce charme.
Oui.
Elle était toujours dans le côté séducteur et touchante, amusante et émouvante aussi, parce que j'ai dîné avec elle, avec des gens et tout ça. Et quelquefois, elle mettait la main sur mon bras. Ça voulait dire quelque chose. Soit elle en avait assez, soit il allait se passer quelque chose.
Il faut quand même dire que Gianni a débuté à 14 ans au cinéma. À 15 ans, elle est l'une des plus jeunes actrices sociétaires à la Comédie Française.
Oui.
C'est incroyable. Et très rapidement, elle est devenue une vedette de 70 à 2025. Elle a tourné 45 longs-métrages.
Oui.
C'est extraordinaire.
Extraordinaire comédienne. Et donc belle, et chantant très bien.
Et chantant très bien.
Parce qu'elle elle a fait un titre.
Oui, c'était très sympa de l'avoir.
Pull Marine.
Oui, c'est ça. Ouais. Dans cette eau, espèce de taux. Le clip était très sympa aussi.
Ben oui.
Bon, une Égyptienne qui change Bambino. Le titre reste cassé plusieurs semaines. Numéro 1 des ventes. Égyptienne, Bambino. Alors ?
Une Égyptienne à Bambino.
Non, une Égyptienne qui chante Bambino, pardon.
Ah, Dalida.
Dalida a gagné. C'est une idole, Dalida. Alors vous avez rencontré
Dalida, c'est compliqué. Il y a Orlando aussi.
Oui.
Donc,
derrière Dalida, il y a Orlando.
Oui, ou devant, enfin, parce qu'il aime bien aussi être très en avant. Et non, mais Dalida, une chanteuse extraordinaire, avec beaucoup d'autorité, elle savait ce qu'elle voulait. Et elle voulait la. Elle voulait la gloire, elle voulait être aimée. Ouais, c'est peut-être pas la gloire. Elle voulait être aimée par des amants, mais aussi par le public.
Par le public, oui.
Par le public. Et elle était toujours à la recherche, dans l'attente d'un titre encore plus fort. Et ne pensait qu'à ça. Elle pensait à l'amour aussi.
Bien sûr.
Elle a eu des drames d'amour.
Elle a eu quelques difficultés, quelques drames dans sa vie, cette femme.
Oui.
Mais peu à peu, vous êtes fait partie du cercle amical de Dalida. Alors, il y a quelques proches qui étaient...
On jouait aux cartes chez elle.
Oui, c'est ça.
À Montmartre.
Elle vous faisait les pattes, non, c'est ça ?
Elle faisait des pattes, absolument. Et vous étiez là.
Ah, oui.
Puis après, il y a la rencontre avec François Mitterrand aussi.
Oui, c'est ça.
Donc, elle habitait dans une maison donc à Montmartre, au bout d'une rue. Il n'y avait pas de lampadaire. Donc, la rue était un peu noire. Et d'une semaine, d'un jour à l'autre, soudain, bizarrement, on a installé des réverbères pour que la rue soit beaucoup plus allumée, pour qu'il n'y ait pas de danger pour le président.
C'est ça, de connaître les hommes politiques, ça fait avancer le problème. Françoise Sagan devient célèbre dès son premier roman « Bonjour Tristesse » publié en 54, alors qu'elle n'a que 18 ans. Et tout d'un coup, elle apparaît dans votre vie, c'est ça ? Vous la rencontrez ?
J'ai toujours aimé tout ce qu'elle disait. Elle était spéciale. Vous l'avez connue vous-même ? Non, pas du tout.
J'ai lu, mais je ne l'ai pas connue.
« Bonjour Tristesse », bien sûr. Bien sûr. Et charmante, spéciale, avec du caractère, elle aussi. Il ne fallait pas lui raconter d'histoire. Et en fait, je lui ai parlé. La première fois, c'était un concert, un très grand concert à Versailles. Et elle était là, curieusement. Donc, une écrivaine qui est là, un concert de rock et tout ça. Bon. Et donc, je suis allé lui parler. Tant pis, je savais qu'elle avait du caractère. Et je dis bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, voilà, j'ai lu votre dernier livre et tout ça. Le livre s'appelait « Le lit des faits ». Et elle dit « Ah, vous avez lu ce livre-là ? » Oh, ben alors, vous avez tout lu, elle m'a dit.
Elle était qualifiée de « charmante petit monstre » par François Mauriac. Et François Sagan est une femme qui revendique sa liberté d'être.
Elle avait la dent dure, éventuellement.
En tant qu'attaché de presse, vous étiez très souvent invité à des concerts, rencontres oui. avec des artistes français et étrangers. Ça, c'était votre vie, en fait.
Bah, c'est-à-dire que quand on travaille dans le cinéma, bah, on va rencontrer des gens de cinéma pour des grandes sorties et tout ça. Quand on est dans le monde musical, c'était mon cas, les chanteurs et tout ça. Donc je rencontrais des chanteurs, il y avait des répétitions. C'était intéressant de voir des répétitions aussi.
Bien sûr.
Le travail, les recherches pour la musique, pour les attitudes sur scène, pour les vêtements. Et puis... Et puis les humeurs, les peurs, les tracs et tout ça.
Bien sûr.
Les artistes, c'est comme des bébés, il faut s'occuper d'eux tout le temps.
Bien sûr. Voilà. C'était un peu votre rôle de s'occuper
d'eux. On ne change pas leur couche, hein, mais en tout cas, non mais il faut les rassurer. Ah, tu crois que mon costume bleu c'est bien donc tu ne l'aimes pas. Non, il est bien. De toute façon, j'en ai qu'un. Alors,
oui, comme bon, ça, c'est réglé. Mylène Farmer. En fait, Mylène Gauthier. Mylène Gauthier, qui a choisi Farmer en hommage à l'actrice américaine Frances Farmer, qui est une super actrice.
Oui.
Mylène Farmer est la première et seule artiste à faire des clips excessivement créatifs. Elle a commencé par faire des clips incroyables.
Eh ben, son premier clip... Moi, je ne la connaissais pas du tout et sa maison disque m'appelle en disant « On aimerait que vous veniez donner votre avis sur le clip d'une jeune chanteuse et tout ça. » Alors, je dis « Bah oui, pourquoi pas ?» Et donc, je n'avais pas entendu ni la musique, ni rien. Donc, c'est dans un endroit, un petit cinéma à Paris, tout ça, il y avait peu de gens. Et c'était tenu par Claude Lelouch, ce truc-là. Et puis on y va. Et puis, au moment où ça y est, ça va commencer et tout ça, je ressens une envie pressante. Donc, tant pis, je suis obligé de sortir pendant 2-3 minutes. Et je sors. Et là, derrière la porte, dans l'escalier, il y a une jeune fille qui est là et qui me regarde comme terrorisée. Je ne la connais pas. Bon, donc quand je reviens, elle est toujours là et elle me regarde toujours avec frayeur.
Affolée.
Pourquoi je suis parti? Pourquoi je reviens? Affolée. Ouais. Et je vois le clip qui s'appelait...
Maman a tort.
Maman a tort. Qui était une histoire d'une jeune femme amoureuse d'une infirmière. Maman a tort parce que maman n'est pas d'accord. Donc c'était déjà très particulier.
Absolument. Ça a créé d'ailleurs des controverses. Hein.
Mais oui, son premier single, c'est une histoire de femme qui ont
envie... Histoire de femme, d'amour de femme.
Ouais. D'amour de femme. Et là, je comprends que c'était elle qui était dans accroupie dans l'escalier, terrorisée par le fait que je sorte au bout de 15 secondes de film et je ne pouvais pas faire autrement.
Sa vie allait changer ou pas, en
fait. Et pourquoi ce monsieur ne reste pas?
Oui, c'est ça.
Ne me regarde
pourquoi
pas.
Il ne reste pas à regarder.
Voilà. Et donc, c'était un quiproquo.
Oui. Et elle a eu la carrière qu'on sait, c'est fantastique. Les artistes se servent, en fait.
Elle est extravagante de talent.
Absolument, absolument.
D'imagination et de...
Elle fait des grands shows, en plus. Elle fait du show, c'est incroyable.
Et qui tourne, mais au millimètre près.
D'ailleurs, elle a une carrière très étrange, parce que c'est fait de mystère. Et elle n'est pas dans les tableaux.
Elle a raison, les artistes, il faut qu'ils se protègent.
Oui.
Parce que sinon, ils n'ont plus aucune liberté.
Mais les artistes se servent aussi des chansons pour raconter leur vie. Comme Barbara, quand elle chante L'Aigle Noir, elle raconte l'inceste qu'elle a subi de son père. Et en fait, les gens n'ont pas compris tout de suite. Elle n'a jamais dit « je parle d'inceste ». On a compris. Et quand on sait de quoi elle parle, c'est tellement incroyable ce qu'elle dit.
Elle en a parlé toute sa vie. Quand la maison disque m'a appelé en disant « voilà, on a signé une chanteuse qui travaille surtout dans les cabarets, elle s'appelle Barbara ». Je ne la connaissais pas du tout parce que je n'allais pas dans les cabarets, c'était pour les vieux, pour un monde dans ma tête. Et bon, bref, alors je vais écouter dans la maison disque et je dis donc l'aigle noir, un oiseau au-dessus d'une jeune fille qui était assise dans la campagne et tout ça. Je trouve ça joli, un oiseau
ouais,
qui... Voilà. Donc j'ai dit oui, je vais proposer ça aux maisons de disques, aux discothèques, où ils passent que des... Ils passent des slows, et donc voilà. Et puis...
Ça a fonctionné, en fait.
Ça a fonctionné. Tous les DJ me rappellent en disant « Mais c'est extraordinaire, c'est génial et tout ça. » Et ça démarre. La maison de 10 dit « Ah bon, bah alors, puisque ça démarre, on va mettre le tout-team là-dessus, on va en faire un tube et tout ça. » C'était le début. Et un jour, quand même, je rencontre Barbara. Elle me dit « Ah, c'est vous, Grégoire ?» et tout ça. Je dis « Oui. » Elle dit « Alors... Comment ça se fait que vous avez décidé de faire la promotion de ce titre-là ?» Ben, je dis, écoutez, je disais madame, forcément. Ben, madame, ce titre, il est merveilleux. La jeune fille, un bel oiseau noir, et tout ça. Ah, vous n'avez pas compris.
Ah oui.
Je dis, vous n'avez pas compris quoi, Grégoire ? C'est un viol que j'ai subi de la part de mon père. Je me suis pas évanoui, mais je me suis... Comment j'ai pu défendre et que maintenant tout le monde parle de cette chanson.
Oui, mais en même temps, c'est bien d'en parler aussi.
Oui.
Après, elle a fait une chanson d'ailleurs où elle parle au moment où elle doit arriver, je ne me rappelle plus sur ce titre, elle doit arriver pour le décès de son père et elle n'arrive pas à temps parce qu'effectivement, il y a ce problème-là. Vous avez donc fait la promotion de son 45 tours.
Ah oui, Et je vous dis, elle en a parlé toute sa vie dans ses mémoires et tout ça.
Tant mieux, tant mieux. Bah, oui. Alors on va l'écouter, comme ça elle va,
ah,
on
sympa.
Va écouter Barbara et l'aigle noir.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser, il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai sens-tu penser, il m'est revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant. Dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles. L'aigle noir, dans un bruissement d'ailes, pour y s'envoler, pour regagner le ciel. m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Bonjour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle noir.
L'aigle noir qui nous racontait un petit peu cette douloureuse expérience qu'elle a eue avec son père. Vous êtes toujours sur Allegre FM 93.1, c'est l'émission Tant qu'il y aura des femmes. Et nous recevons un homme, Grégoire Collard, qui a passé sa vie à s'occuper des artistes, à les mettre, à faire la promotion de leurs albums. Et de
des hommes et des femmes.
Et des femmes, bien entendu. Et donc son livre souvenir qui s'appelle Si ma mémoire est bonne. Alors, dans les années 70, il y avait de très nombreuses émissions de variété à la télévision.
Ah oui.
On était dans la... Il y avait moult choses, hein, beaucoup de différents genres d'émissions en plus.
Oui, bah, oui, c'était compliqué de plaire à tout le monde avec tous les producteurs, les Gilux, les Drucker et tout ça, qui avaient leur propre goût. Il fallait aussi parfois décider les artistes à faire telle ou telle émission, comme Brassens par exemple.
Bien sûr.
Qui ne voulait pas faire des émissions populaires et commerciales. Il était charmant, mais il avait ses choix à lui. Et jusqu'au jour où Gilux me dit, j'aimerais bien recevoir Georges Brassens dans mon émission de variété. Et là, dans ma tête, je me dis, oh là là, Georges Brassens,
ça va pas le faire, oui.
Qui est communiste et machin, faire une émission commerciale au profit de ceci, au profit de cela,
avec des paillettes,
ça va pas passer. Et donc, j'ai une idée. Je dis à Gilux, je vais essayer. Je vous propose que vous preniez 4 de mes jeunes chanteurs qui n'ont jamais fait de télé encore, qui viennent de sortir un nouveau titre, un premier titre. Et comme ça, je pourrais décider... Enfin, voilà.
Et ça s'est passé comme ça. Mais on va commencer quand même, juste pour savoir, en 1948,
oui.
La première émission est le cabaret de la plume d'autruche. Et dans les années 1950, l'émission 36 chandelles présentée par Jean Nouin.
Oui, c'est vieux,
la
ça.
Jeunesse, n'est-ce pas, mais c'est le début de la télévision et des émissions de variété.
Oui.
Avec la modernisation, j'avais pas... modernisation des techniques de production, l'apparition de deuxième chaîne. À partir de là, effectivement, arrive Carpentier, Lux, Gilux, etc., Michel Drucker, etc. Mais avant tout ça, il y a eu Mireille,
ah,
et le petit conservatoire.
Ce petit chemin.
Ouais.
D'abord, il y a eu
qui
ce petit chemin.
Qui sent la noisette.
Ouais, ouais. Et c'était une femme extraordinaire qui était pianiste, professeure de chant, et... elle toute petite, un caractère généreux, elle était attentive, attentionnée, et elle faisait souvent, elle faisait de très bonnes chansons. À 18 ans, elle était déjà hyper connue, même à New York, elle avait déjà...
Oui, c'est
des,
incroyable.
Sur les bus, il y avait déjà la publicité de ses concerts. Sacha Guitry lui a dit « Mireille, vous devriez louer un local, mettre des bancs en bois et donner des cours à des jeunes gens qui veulent devenir chanteurs et vous leur faites payer. » Et puis voilà.
Et c'est avant, c'est la Star Academy avant l'heure, quoi, en fait, c'est ça ?
Oui.
Quelque part.
Quelque part, c'était ça. Donc, toutes les semaines, et moi, je regardais ça. Alors là, j'étais vraiment tout petit, genre 7-8 ans, et je trouvais ça incroyable. Donc, je l'ai connue, bien sûr, plus tard. Et elle avait toujours ce petit conservatoire. Et elle m'a demandé, à moi, ainsi qu'à Françoise Hardy, d'être...
Qui est passé dans son émission, dans son cours, d'ailleurs, qui était dans son cours.
Voilà, et de... Absolument. Et elle m'a demandé aussi à moi d'être là, d'être présent pour donner mon avis et tout ça. Alors, je parlais pas là.
Bien sûr.
Je ne chantais pas non plus. J'étais là. Et c'est comme ça qu'on est devenus très, très amis. Et que quand elle a fait un album de chansons à elle, qu'elle avait composé et tout ça, produite par Michel Berger.
Ah oui.
Et donc j'ai fait sa promotion. Et là, c'était drôle, parce qu'il fallait que je lui trouve, bien sûr, des articles dans la presse. Et un jour, je lui dis, « Mireille, Mireille, vous allez avoir un article dans le magazine Lui. » Alors elle dit, « Ah bon, c'est quoi ce magazine ?»« Bah, vous verrez bien, c'est un magazine un peu excentrique. » Bon. Alors, elle descend de chez elle, et puis elle dit à sa libraire, je voudrais acheter Lui. Bah, d'habitude, c'est le Figaro, Mireille. Oui, non, mais le Figaro, d'accord. Mais je voudrais Lui. Parce que vous savez quoi, je suis dedans.
C'est extraordinaire.
Il n'y avait que des femmes nues dedans.
Oui, il n'y avait que des femmes nues, absolument. Est-ce que la figure féminine des années 50, 70, qui est une star mondiale, l'égérie et la muse de plus grandes artistes de l'époque, qui s'appelle Bébé, qui est l'emblème de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle. Elle incarne les rôles des femmes libérées, anticonformistes et parfois fatales. Vous avez rencontré Brigitte Bardot ?
Alors ça, c'est vraiment dans mes tout débuts. Alors là, je ne savais pas encore ce que j'allais faire dans le show business. Et j'avais un copain qui était photographe officiel d'un magazine pour jeunes. Et il m'a demandé d'être un peu son assistant sur certains trucs, certains déplacements. Pourquoi pas ? Là, je ne l'ai pas payé, mais j'apprenais des choses.
Oui, bien sûr.
Je me rapprochais de mon but, le show business, le monde.
Les artistes.
Des artistes, des stars et tout ça. Et il me dit, bon, on va aller sur un tournage d'un film qui se tourne avec Brigitte Bardot. Je me dis... Brigitte Bardot, c'est pas rien tout ça, parce que normalement c'est très difficile d'aller sur un plateau de télévision. Ouais. Mais je dis, je vais faire quoi ? Ben moi, j'aurai mes appareils photo et tu porteras ma caméra, un appareil, voilà, c'est tout. Voilà. Donc on y va et on arrive et on voit le metteur en scène, tout ça, tout se passe bien, les éclaireurs, même en plein jour, les éclaireurs pour ajouter de la lumière. Donc on est là. Brigitte Bardot, on ne la voit pas. Elle est en train de se faire maquiller. C'était en Normandie, donc il y avait une ferme normande avec un toit de chaume. Elle était dans cette maison en train de se préparer, maquillage et tout ça. Et puis soudain, c'est le moment. Alors ça y est, hop, on allume tout ce qu'il faut. Et puis elle sort et elle avance lentement. Elle a un genre d'imperméable, alors qu'il fait très beau, mais ça c'est pour le film. Et elle avance, tranquille et tout ça. Donc silence de mort. Et à ce moment-là, il y a un chien qui déboule, qui sort de la maison, qui hurle à la mort, comme si on était en train de le torturer avec un couteau dans tous les sens. Et Brigitte Bardot
s'arrête.
Elle fait, qu'est-ce que c'est
déjà,
ça
mais, c'était pas
mais
clair.
Mais ce chien, d'où il vient il venait de la maison. Ah, alors, elle se penche, elle se met à genoux dans le gravier. Et donc ses bas, les bas de Brigitte Bardot sont foutus, ils sont troués. Ouais. Bon, voilà. Et puis, là, elle relève la tête, elle me voit. Elle ne m'avait pas encore vu. Hein. Et elle dit, c'est à vous ce chien ? Mais d'une violence. Je dis non. Vous êtes sûr ? Oui. Oui. Je réponds pas
déjà,
durement.
Déjà, elle était déjà voilà. Proche des animaux. Le Zoulou blanc.
Alors attends, c'est pas fini.
Ah.
Donc le metteur en scène dit, on arrête tout, et on reprendra demain et tout ça. Et mon photographe a quand même fait des photos. Et quand c'est sorti dans la presse, le titre c'était « Brigitte Bardot arrête le cinéma pour un chien ».
Pour s'occuper des animaux.
Ce qu'elle a finalement fait dans sa
vie. Oui. Donc vous avez été la première, vous avez participé au premier moment où elle a décidé de changer de son métier, enfin, d'abandonner son métier pour faire s'occuper des chiens.
Elle aimait déjà les animaux, mais en tout cas... Oui. Ouais.
Alors, le Zulu Blanc, il a offert plusieurs tubes mondiaux, comme qui était un chanteur sud-américain, Johnny Gleck, que vous avez connu.
Non, il est sud-africain.
Ah, j'ai dit américain, pardon, merci.
C'est pas grave.
Sud-africain, absolument. Et il a fait une chanson pour Mandela, d'ailleurs. Et voilà, il avait rencontré...
Asimbananga.
Asimbananga, voilà, exactement.
Alors, ça je vais résumer, mais... il y a plusieurs maisons de disques qui m'appelaient et tout ça, dont un producteur que je connaissais bien, et je savais qu'il était raciste à mort. À mort. Les blacks, ça, ils ne supportaient pas du tout. Et il m'a dit, écoute Grégoire, j'ai signé un catalogue de chanteurs de Johannesburg, en Afrique du Sud, est-ce que tu pourrais écouter, j'ai reçu une dizaine d'albums 33 tours à écouter, est-ce que tu peux bien écouter ça chez toi? Sous-entendu, moi, je ne veux pas de disques de noir dans ma maison.
Thérapie pour lui.
Alors j'écoute, et soudain, j'écoute ça. Donc Asimbananga. Asimbananga.
Et il a vendu quand même 5 millions d'albums dans le monde, ce chanteur.
Alors, je lui dis, ça c'est bien ce titre-là. Alors, je dis, peut-être qu'il y en a un qui est nègre, mais je ne suis pas sûr. J'ai fait. Non, mais je fais venir le matériel.
D'autant qu'il était quand même blanc.
Il reçoit le matériel et il me dit, je crois que celui qui chante, je crois... que c'est pas un nègre. C'est pas un vrai nègre. Je crois que c'est un blanc qui chante comme des vrais nègres.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a eu Queen. Non, pas la reine, mais le groupe.
Des reines, j'en ai connu quand même.
De Freddie Mercury.
Alors là, c'est encore autre chose. Mais on dit ce que m'appelle, pareil, en disant, voilà, on a signé un catalogue anglais. On ne sait rien sur eux. Ils s'appellent les Queen. On aimerait que vous veniez à la maison 10 pour donner votre avis. Si ça vous plaît, on vous confierait. Bon, peut-être que ça pourrait marcher, on ne sait pas.
Ça a marché.
Et bah oui, alors j'écoute et je leur dis, ah non mais vous allez en vendre 1 million. Je crois qu'ils allaient me dire, bon, on arrête de boire, on arrête les drogues, c'est pas possible. Ils ne savaient pas qu'il y avait déjà eu des tournées d'eux aux États-Unis, en Angleterre.
Ouais, ouais.
Et donc, les titres, c'était quoi, machin?
Alors, donc...
Bah, les titres des Queen.
Ah oui, il y en a beaucoup. Hein, c'est... Mais dites-moi, vous, le titre.
We are
the champion, effectivement.
We are the champion.
Oui, bien
and
sûr.
And we will rock you. Et je suis allé avec eux aux États-Unis. Ça, je les ai bien connus.
Bah oui.
Et je suis
le temps passe très vite, Grégoire. Je sais qu'il faut 2 heures avec vous, je le sens. Hein.
Je suis toujours en rapport avec eux.
Bah oui, parce que j'aimerais bien qu'on parle quand même de l'artiste qui est emblématique aussi. C'est Michel Berger, France Gall et Balavoine, ce groupe,
tout
ce trio.
Tout le monde me parle de Michel Berger et France Gall aussi. Mais,
et Balavoine aussi.
Il y avait une véritable... Non, pas Balavoine. Il était jaloux de mon amitié avec Michel Berger. Il aurait voulu que Michel n'ait qu'un ami, que ça soit lui. Mais ça se passait quand même bien. Et Michel me considérait, enfin, il me payait pour faire sa promotion pour les radios, les télévisions et tout ça. Mais il était très présent. Il posait des questions. Si jamais, à un moment, pour des raisons... amoureuse, j'étais déprimé. Il me disait, je te paye un avion, tu vas aller où pour te remettre? J'avais le choix.
Ouais.
Et ben, j'y allais.
Ah ben, vous avez raison. En tout cas, il faut savoir que ces artistes, en dehors de fait d'être des artistes, ils ont quand même fait des actions humanitaires. Ce sont des philanthropes, ce sont des gens qui ont fait, que ce soit France Gall, Michel Berger, qui ont aidé et qui ont essayé de changer. J'ai envie de vous demander, pour conclure, vous avez rencontré beaucoup d'artistes, français comme internationaux.
Oui.
Aujourd'hui, de nombreuses personnes veulent devenir artistes. Que pouvez-vous dire à ces futures stars aujourd'hui?
Un futur star, ça on ne sait jamais, évidemment. Mais c'est tout simple, il faut croire vraiment en soi.
Il faut avoir un peu de talent quand même aussi.
Oui, mais justement, les gens vont penser que vous êtes sûr d'avoir du talent. Et dès le départ, vous paraissez prétentieux.
Oui.
Parce que tout le monde pense qu'un jour, il va réussir, il espère. Il a fait une chanson, le monde entier va aimer cette chanson. Et évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, c'est compliqué.
C'est compliqué. Mais quels sont les écueils que rencontrent les artistes aujourd'hui? Quels sont les problèmes que les artistes rencontrent aujourd'hui?
C'est justement tous les gens qui profitent de ceux qui réussissent.
Oui.
On ne vous donne rien, mais on est prêt à tout vous prendre.
En même temps, on a l'impression qu'on fait, on crée des artistes de manière éphémère. Ça veut dire qu'un artiste, quand on fait tous les Starac, etc. Alors le premier, effectivement, a une carrière, mais le troisième ou le quatrième, ça dure 3 mois, quoi. Ça dure pas autant.
Ce sont des émissions qui donnent des espoirs.
Oui.
Des espoirs.
Oui, c'est ça.
Mais parce que si on peut toujours chanter, on peut toujours faire des... Tout le monde ne peut pas réussir et vendre 100 millions de
non, 40, et puis tout le monde ne peut pas faire une carrière comme Aznavour de 50 ans ou des choses comme ça, c'est pas possible, quoi.
Il faut une volonté aussi incroyable.
Alors, vous avez donc connu beaucoup d'artistes. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a le plus impressionné, dont vous gardez un souvenir immémorable, on va dire? Question difficile.
Christophe. Le chanteur Christophe.
Ah, Christophe ?
Les mots bleus.
Ah oui ?
Lui, c'était... Il était dans son monde et en même temps très spécial, adorable. Hein. Très spécial, comme tous les artistes. Est-ce qu'elle est bien, ma nouvelle chanson ? Enfin, tout ça, ça c'est la base. Mais vraiment...
En tant qu'individu, en fait, vous voulez dire ?
Oui, en tant que personne.
En tant que personne.
Bah, une personne, il n'y a pas que le côté artistique, il y a le côté...
Ouais,
voilà.
Ouais, la personnalité.
Et il se confiait à moi alors qu'il se confiait à personne.
Oui.
Donc j'étais fier de ça.
Bien sûr.
Donc il fallait que je lui raconte aussi des choses. J'inventais quelquefois.
Mais aujourd'hui encore, vous travaillez plus vraiment, mais vous êtes quand même invité, vous êtes dans des événements.
J'ai cette chance, oui.
Oui, n'est-ce pas? Et vous faites des chroniques aussi, c'est ça?
Oui, je fais des chroniques, puis je fais beaucoup de radio. Merci d'ailleurs de me recevoir.
Je vous en prie.
Mais c'est génial parce que écrire, on est seul.
Bien sûr.
On imagine le lecteur, la lectrice, et puis après, voilà, c'est édité, si c'est possible. En tout cas, c'est édité. Et là, les gens vous parlent. Il y a des gens qui sont émus. Il y a un gens qui vous poser des questions. Mais est-ce que c'est vrai ça? Il s'est vraiment passé ça dans l'avion, dans ceci, dans cela. Et puis il y a des gens qui pleurent en me voyant parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, Michel Berger !» Je dis non, je ne suis pas Michel Berger. Ah non, mais vous avez travaillé
vous avec avez travaillé, oui, vous avez connu.
Ils ont les larmes aux yeux.
Bah écoutez, vraiment, c'était très sympathique. Il faudrait faire un deuxième livre, parce qu'il y a plein de choses, on n'a pas pu parler de tout, malheureusement. Il faut 2 heures, ou un deuxième livre. Il faut quand même... je vous conseille vivement d'aller dans les plus belles et grandes librairies, la Fnac Haute, pour ce livre, si ma mémoire est bonne, et elle est bonne.
Oui, mais aussi, si on parle au téléphone, on peut commander aussi et le recevoir.
Oui, absolument, voilà. Absolument. Et bah, Grégoire Collard, merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est moi, merci.
Je rappelle que vous pouvez effectivement, merci Armand Gury aussi, notre adorable technicien.
C'est vrai qu'il est sympa.
Il est très sympa, on va le garder de toute façon.
Mais attention, merci. Parce qu'il va demander plus d'argent maintenant.
Ah, peut-être, oui, peut-être. Mais bon, on va négocier, on va négocier. Les éditeurs, je vous remercie infiniment de votre écoute. Si vous désirez réagir à l'émission ou proposer un sujet, vous avez la parole dans l'émission tant qu'il y aura des femmes sur Aligre FM 93.1. Et l'email, c'est desfemmes@aligrefm.org. Et nous allons écouter France Gall.
Oui.
Qui va nous dire si, maman, si. Au revoir, Grégoire, merci beaucoup.
Merci,
à très
bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé, mes vacances sont toujours partis. mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman, si, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.